Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Étienne.
Oui, bonsoir Caroline.
Bonsoir.
Si vous me permettez, je voulais souhaiter tous mes meilleurs voeux au personnel, à vous, puis aux personnes un peu qui sont dans la faculté, dans la difficulté, dans la maladie, ou qui passent de moments très difficiles. J'espère que le ciel s'éclaircira pour eux, comme pour d'autres.
C'est très gentil, Étienne. Merci beaucoup. Très belle année à vous. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on vous souhaite, vous, en ce début d'année ?
Merci beaucoup. Pas. Moi, je pense surtout plutôt aux autres. Après, moi, je dirais je dois
avoir. Vous pensez un peu à vous aussi. Il faut aussi un peu penser à vous, vous savez. Pour être bien avec les autres, il faut déjà commencer à être bien avec soi-même.
Oui, vous n'avez pas tout à fait tort. C'est vrai. Donc, moi, je voulais vous parler un peu, peut-être, je ne sais pas si je puis me permettre, c'est de.
Vous êtes là pour ça, hein.
D'un mariage blanc, finalement.
Ah oui, c'est pas si courant.
Donc, il existe plusieurs types de mariages. Les mariages normaux, le mariage gris et le mariage blanc.
Le mariage gris, d'ailleurs, c'est... Qu'est-ce que c'est?
Alors, si je me trompe pas, j'espère que, pour les auditeurs, je vais pas me tromper. Le mariage blanc, c'est quelqu'un qui va se marier avec vous à d'autres fins.
C'est-à-dire qu'il y a un intérêt, mais les deux partent. Les deux protagonistes sont au courant dans le mariage blanc?
Non. Hein? Dans un mariage blanc, vous me tendez la perche sur autre chose. Je sais pas, si, je dirais que dans mon cas, moi c'est plus un mariage blanc, mais j'étais pas au courant. Mariage gris, je crois que c'est un mariage qui se monnaie. Donc ça existe. Hein. Et puis après, il y a le mariage pour le meilleur et pour le pire.
Ça, c'est le mariage commun.
Voilà.
Ça, oui, c'est le plus classique, on va dire. Voilà. C'est le format standard. C'est ce qu'on dit d'ailleurs. Ben, si, on le dit à l'église notamment, on se marie pour le meilleur et pour le pire.
Oui, je crois que même à la mairie, ils le disent.
Alors, voilà, je suis allée chercher un mariage gris. C'est un mariage qui est qualifié comme tel lorsqu'une personne se marie de bonne foi à une autre personne qui, elle, est animée d'une intention frauduleuse. En cherchant uniquement à obtenir un avantage prédéfini, ça peut être un titre de séjour ou un visa grâce à ce mariage. Donc, c'est vraiment le mariage de dupes. Il y en a une qui est animée, qui est dans l'état amoureux, qui conduit au mariage, et l'autre, en fait, qui a une intention frauduleuse. Alors que le mariage blanc, normalement, c'est presque un contrat tacite, moral, entre deux personnes, où l'on sait, les deux savent que c'est pour un arrangement.
Bon, merci de me rectifier. Alors moi, dans mon cas, c'était plutôt un mariage gris.
Ah oui.
En clair, pour faire vite, c'est que j'avais découvert un pays d'Asie, pour pas le nommer, parce que je veux pas. En réalité, je les aime beaucoup, les pays d'Asie, mais je veux pas me fâcher avec aucun pays. Voilà.
De toute façon, le comportement d'un ressortissant de ce pays ne jette pas l'opprobre sur le pays tout entier. Vous voyez, c'est parce que quelqu'un se comporte mal dans un pays qu'on va jeter le discrédit sur le pays en entier.
Voilà. C'était sur 2005-2004. Et puis, c'est vrai que c'est un pays hors d'Europe.
Donc, c'était un séjour touristique au départ. Vous y alliez, c'est ça pour...
Une relation éloignée dans le travail me fait que, tiens, si tu veux, je connais quelqu'un là-bas. Donc, elle peut être hébergée, etc., etc. Bon, ça s'est pas trop bien passé. Je passe à autre chose. Après, ça me permet d'aller plus vite. Hein. Et quelques années après, quelques mois après, j'ai un collègue de travail éloigné encore, qui était d'origine asiatique, pour pas nommer le pays, voilà, qui me dit, tiens, je peux te présenter quelqu'un.
Et quelqu'un, parce qu'il savait que vous recherchiez une amoureuse.
Oui.
Et que vous étiez attiré par les femmes asiatiques.
Moi, j'aime bien leur sourire, les petits
yeux. Oui, non, non, mais bah, c'est, enfin, je comprends, elles sont très jolies.
Il y a beaucoup de grâce.
Oui, donc ils connaissaient quelqu'un. Donc un mariage un peu arrangé au départ, enfin arrangé dans le sens de... ils jouaient les entremetteurs dans ce sens-là, vous voyez.
Arrangé, je peux pas... Non, je dirais pas arrangé, parce que, bon, après, différentes webcams, avec nos échanges, je suis tombé amoureux, finalement.
Et oui. Elle donc, était jolie, elle vous plaisait.
Voilà, donc... puis elle ne m'avait pas donné au départ les plus belles photos. Vous voyez, donc...
Normalement, on met en avant ses plus beaux atours, au contraire.
Oui, mais là, c'est pas ce qu'elle avait fait. Bon, mais bon, c'était pas grave. Moi, je suis tombé amoureux, et puis voilà. Et... bon, nous sommes revus plusieurs fois, et puis bon, nous sommes mariés. Hein.
Ah ben, vous êtes vus quelques fois avant de vous marier, quand même.
Oui, mais bon, comme j'ai été très amoureux, finalement, on dit que l'amour rend aveugle. Hein, et oui, c'est vrai, quand même.
Donc vous ne nous êtes pas vus beaucoup, en fait.
Ben, on s'est vus plusieurs fois, mais bon...
Vous êtes allé la voir dans son pays ?
Oui. Mais, je sais pas comment dire. Bon, elle maîtrisait bien son comportement, les mots. Elle parlait bien le français parce qu'elle avait fait une langue de... elle était diplômée d'une langue étrangère qui était le français, donc elle savait écrire le français. Bon, l'écrire, elle parlait. Et non, le courant est bien passé. J'ai monté mon dossier en France, entre la France et le pays en question.
Oui.
Puis il a fallu légaliser tous les documents, donc j'ai dû monter ça en 4 mois. Et à l'époque, je sais pas aujourd'hui les lois, mais à l'époque, le dossier était valable 6 mois. Voilà. Bon. Et le plus dur à se reconstruire sur une histoire comme ça, en réalité, alors vous êtes psychologue, Caroline, donc moi je me suis beaucoup interrogée sur ce que j'avais vécu, maintenant bon je suis un peu plus âgé, j'ai 62 ans, j'ai dû me marier entre 50 et 52 ans. Le mariage a dû avoir lieu en 2007 et le divorce 2013. Moi, j'ai aimé mes beaux-parents mieux que mes parents. Alors, pourquoi ? Bon, je pense que je suis pas psychologue, mais bon, j'ai essayé de auto-m'analyser. Hein. En clair, c'est quand j'étais tout petit.
Alors, vous allez nous raconter hein, pourquoi, finalement, qu'est-ce qui s'est passé, finalement, ce lien très fort avec vos beaux-parents, avec celle qui était devenue votre femme, la désillusion. Ce sera après les infos de 23h, d'accord, Étienne ?
Très bien, Caroline.
Restez bien en ligne, hein, tout de suite.
22h, minuit 30.
Parlons-nous.
Caroline Dublanche sur RTL.
Parlons-nous chaque soir de 22h à minuit et demi. L'antenne de RTL est à vous au 09 69 39 10 11. C'est un numéro non surtaxé. On parle de tout ce qui vous touche, vous préoccupe. On apprend à mieux vivre avec soi-même et les autres. Tous vos questionnements, même les plus intimes, sont les bienvenus. Et vos réactions aussi, car on a beaucoup à partager. Alors à tout moment, vous pouvez réagir en envoyant un SMS au 64 900, code RTL, 35 centimes par SMS. Vous pouvez aussi nous laisser vos commentaires sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous ou directement, si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur ou une auditrice, appelez 09 69 39 10 11. Et on vous retrouve, mon cher Étienne.
Oui, mais j'espère que vos auditeurs ne vont pas être trop méchants avec moi.
Non, ils ne sont pas méchants. Non, très rarement, non. Il y a beaucoup de gentillesse, de bienveillance en général, voilà. Franchement.
C'est gentil.
Non. Ne vous inquiétez pas. Donc vous vous êtes mariée, vous aviez une cinquantaine d'années, c'est en 2007, avec quelqu'un. Alors au départ, c'était un collègue asiatique, ça a son importance, sinon je ne le mentionnerai pas, qui dit « j'ai quelqu'un pour toi ». Vous étiez passionnée par les pays asiatiques et vous avez rencontré celle qui allait devenir votre femme, au départ par webcam. femme, vous êtes allé sur place, et puis finalement, vous avez fini par vous marier. Quel âge avait-elle, elle, d'ailleurs ?
Vous faites tousser.
Oui, ben je m'en doute. je vous demande ça parce que vous avez précisé votre âge. J'imagine qu'elle était un peu plus jeune que vous.
Il y avait 20 ans de différence.
Elle avait une trentaine d'années, quoi, cette jeune femme.
Elle avait 30 ans et moi j'avais 50.
D'accord.
Bon, après, ça me dérangeait
ça
pas.
Ça arrive, hein, même dans les unions ici, sous nos latitudes.
Après, bon, dans les pays d'Asie, bon, ils font moins attention à ces grandes différences d'âge. Après, je pourrais dire que quand mon épouse m'a annoncé le divorce, elle s'est pas cachée de me dire « Oh bah t'aurais dû épouser une femme de ton âge, merci
!» Oui, bah elle aurait pu se dispenser de faire ce genre de réflexion.
Non, mais
si
bon,
elle...
ce que j'ai aimé, même si ça fait pas plaisir qu'on entend cela, je trouvais quand même qu'elle était très... moi je lui en veux pas, hein, de cette histoire, finalement.
Ah oui, vous n'avez pas de colère, de ressentiment ?
Non, non, ah bon ? Et pourtant j'ai perdu beaucoup, hein. J'ai perdu une vie d'économie, j'ai eu beaucoup de mal à rebasculer dans la vie d'aujourd'hui, vie de demain.
Oui. Mais comment ça, une vie d'économie ? C'est-à-dire que vous lui avez donné beaucoup d'argent, hein, cette...
En clair, c'est que j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire.
C'est-à-dire, racontez-moi. Parce qu'au départ, on en était resté, donc, bon, elle vous plaît beaucoup, vous communiquez par webcam, vous allez sur place, et puis finalement, vous arrivez à obtenir les papiers nécessaires, elle vient vous retrouver en France.
Ah non, ça marche pas tout à fait comme ça. En clair, c'est qu'il y a beaucoup de pays d'Asie, si vous n'avez pas un statut de commercial, vous aurez pas la France ne délivrera pas de visa pour que vous puissiez quitter votre pays d'origine. Donc, moi, il a fallu que je monte mon dossier de mariage, qui a été approuvé. Alors, tous les documents ont été légalisés par l'ambassade de France, l'ambassade du Vietnam. Ils ont été légalisés par l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins. Donc, j'ai tout fait dans les règles, voilà.
Pourquoi l'ordre des pharmaciens ?
Ben, une ordonnance, ça doit être légalisé par l'ordre des pharmaciens. Alors, il y en a qui ne font pas tout à fait comme ça, il y en a qui passent entre les mailles.
Une ordonnance de quoi ?
Comment ?
Une ordonnance de quoi ? Je ne vois pas ce que viennent faire les médecins.
Ben, il fallait, je me rappelle, quand j'ai monté mon dossier mariage, il fallait un certificat comme quoi que j'étais sain et d'esprit, j'avais toute ma tête, et que je n'avais pas de maladie vénérienne, etc., etc.
Ça, c'est un médecin, qui vous fait ça.
Voilà, donc il y a une ordonnance, et l'ordonnance, elle doit être légalisée par l'ordre des pharmaciens. Et d'autres documents doivent être légalisés par l'ordre des médecins.
Bon, d'accord. Bon, enfin, c'est un dossier complet.
Ah, c'est même plus que compliqué que ça, parce qu'après, il faut faire encore tamponner les documents. Alors, je ne sais plus dans quel ordre.
Oui. Ça a dû vous prendre des mois, ça, de constituer un tel dossier, non ?
En faisant vite, j'ai mis 3 mois et demi, 4 mois, moi, à l'époque, j'avais des horaires décalés. Je terminais vers 2h du matin.
Et puis vous étiez... emballé, quoi, fou de joie, j'imagine. Vous étiez très amoureux.
J'ai donné 99% de mon amour. Et après, ça vous tue de 99%, bien entendu.
Oui.
C'est pour ça.
Et alors, elle a fini par venir. Donc, vous étiez déjà mariée quand elle est venue.
Ça, parce que lorsque nous sommes mariés dans le village de ce pays d'Asie...
Oui, que vous avez cité, mais bon...
Après, on avait un rendez-vous auprès de l'ambassade de France de ce pays, qui nous a délivré ce jour-là son visa, le passeport, son passeport qui était tamponné, etc. Et puis voilà, tout était fait dans les règles.
Elle avait de la famille, elle avait des connaissances en France, parce que vous parlez de vos beaux-parents, donc que vous aviez rencontré sur place, j'imagine.
Oui, avant de se marier, j'avais été au Vietnam à peu près 3-4 fois, généralement pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Oui.
Après, ça me gêne la question que vous posez, je vais vous expliquer pourquoi.
Je demandais juste si elle connaissait quelqu'un en France.
Oui, ce que je voulais vous dire en tout ça, sans grande méchanceté, c'est que en réalité, nous les Français, les Européens, on fonctionne, on est très très fermés, on partage pas nos secrets, on vit pas en communauté, voilà. Nous ne savons pas vivre en communauté. Moi ça n'engage que moi ce que je dis. Hein. Tandis que les Asiatiques, ils savent vivre en communauté, à tel point même, je me rappelle, elle m'avait dit quand elle était à la faculté, ils étaient au moins 5-6 dans la même chambre, hein, donc c'est beaucoup de promiscuité. Hein.
Oui, ils n'ont pas toujours le choix.
Oui, mais je me rappelle...
Comme les ateliers chinois clandestins, ils vivent en communauté, les pauvres, ils s'en passeraient bien. Mais enfin...
Bon, ben voilà.
Un peu... Bon.
Vous l'avez bien fait. Et effectivement, comme ils vivent en communauté, ça fonctionne en réseau. D'accord. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont des amis partout. Et moi, je l'ai vu. Hein.
Oui.
On allait dans des endroits, dès qu'il y avait une Asiatique... Il y avait une fusion, voilà, on s'échange tout de suite les coordonnées, on n'est pas à se poser de questions, tiens, les gentils, les méchants, pourquoi ci, pourquoi là. Ça se fait naturellement et tout simplement du monde.
Alors, donc finalement, elle arrive en France. Comment ça se passe les premiers temps? Parce que c'est vrai qu'entre vous rendre au Vietnam, c'est le dépaysement, c'est un peu des grandes vacances. Mais là, vous rentrez en France et là c'est le quotidien, c'est la vie de couple finalement.
Non, mais disons que bah moi j'ai continué à travailler. Hein.
Oui.
Après, je l'avais dirigé un peu vers une structure. Comment ça s'appelait? Oh, j'ai plus le nom en tête. C'était une structure qui
vient en aide aux ressortissants, peut-être.
Oui, c'est ça. C'est une association où il pouvait y avoir une présidente ou un président.
Oui.
Et ils aidaient bénévolement ces personnes d'origine étrangère pour améliorer leur français, etc.
Oui, déjà qu'elle maîtrisait, elle. Donc ça, c'est... Elle le maîtrisait, vous dites, elle, à l'oral et à l'écrit, le français.
Oui, mais bon, je l'ai quand même orientée
vers ce genre
de choses.
Vous avez bien fait. Oui, pourquoi?
Pourquoi? Parce que bon, elle va pas s'embêter non plus toute la journée à la maison. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui.
Elle arrive d'un autre pays.
Non, c'était bien de votre part. Oui, oui, qu'elle ne se sente pas isolée.
Voilà, déstructurée par par le fait qu'elle quitte sa famille, son pays, sa langue maternelle. Avant, elle entendait parler.
C'est voilà, compliqué, hein, oui, de tout quitter comme ça.
Donc c'est beaucoup de courage, c'est beaucoup de respect, c'est une force intérieure qui est quand même très puissante. Bon, bref.
Vous êtes beaucoup encore, quand je vous entends parler, d'ailleurs vous me dites que vous ne lui en voulez pas, même si cette histoire vous a fait du mal, on sent que vous êtes beaucoup encore dans l'idéalisation.
Bah, disons que moi, quand j'ai beaucoup été dans ces pays d'Asie du Sud-Est, hein, asiatiques, avec elle, je me suis même inscrit à l'université, c'était Paris Dauphine. Hein. Il y avait donc l'INALCO qui ont déménagé. Maintenant, ils sont plus à Paris Dauphine. Hein,
mais pourquoi vous étiez? Quel était le but
c'était
de votre inscription?
Pour apprendre la langue vietnamienne.
Oui, oui, vous étiez vraiment passionné par la culture, le pays. Voilà. Mais concrètement, parce que là, je voudrais que vous m'expliquiez un peu comment ça s'est passé. Une fois que, bon, vous, on comprend bien que vous avez été fou amoureux de cette jeune femme qui, de fait, arrive ici. Vous saluez le courage qu'il lui a fallu, mais alors comment ça se passait? Quand est-ce que vous avez compris, peut-être, que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, finalement?
Alors oui, effectivement, merci d'anticiper sur... Alors donc, pour accélérer un peu en clair, c'est que lorsque je faisais du webcam, j'avais reçu un mail qui me disait « c'est pas une fille pour vous », en anglais.
Ah oui.
Et,
qui venait d'où? Vous savez pas?
Si, j'ai ma petite idée, je pense que c'est un de ses collègues de travail qui avait dû voir
qui voulait vous mettre en garde.
Il a dû se remettre sur l'ordinateur derrière, elle n'avait pas dû fermer la page. Il a lu tout ça. Et après, il n'avait peut-être pas tort non plus. Moi, j'étais fort amoureux, donc
Oui, vous ne vouliez pas voir.
Je ne voulais pas y croire.
Oui, oui.
Et puis, dit, j'en ai parlé quand même à mon...
Mais votre collègue, oui, c'est lui qui vous a dit « j'ai quelqu'un pour toi », non ?
Oui.
Ben oui, il a joué un rôle dans cette histoire, lui. Vous parliez de réseau, justement. Vous dites, il y a un réseau, mais enfin, ce collègue qui vous dit « j'ai quelqu'un pour toi », en y réfléchissant après coup, je sais pas, mais il a joué quand même un rôle dans l'histoire, non ?
Oui, mais je suis pas dans cette réflexion-là au point de lui en vouloir, parce que...
Non, j'ai pas dit ça, mais...
Parce que,
vous êtes hyper magnanime, hein, je trouve.
Non, mais par rapport à toute cette histoire,
oui.
Parce que bon, j'ai quand même souffert pas mal. Hein.
Ben oui, mais vous n'en parlez pas finalement. Vous édulcorez beaucoup, vous nous donnez beaucoup de détails dans lesquels on se perd un peu. Mais au fond, vous, comment vous en sortez tout ça ? Qu'est-ce que, à quel moment vous avez pris conscience ? Ça a dû être douloureux quand même pour vous. Parce que quand justement, vous vous êtes investi pleinement dans cette histoire. C'était un rêve qui se réalisait pour vous.
Un grand bonheur, un très beau mariage, oui, c'est vrai.
Voilà, c'était un rêve du fait que vous étiez très attiré par cette culture, bah bon, cette jeune femme dont vous tombez fou amoureux. Et puis finalement, là, vous avez dû quand même tomber de très haut. C'est douloureux, non ?
Oui, c'est vrai, mais oui, parce que finalement, ce mariage, ça a été la plus belle chose qui m'est arrivée quand même. Je pense, en dehors de mon diplôme que j'ai eu au collège.
Mais quel rapport
de conduire, parce que c'est toutes des belles choses.
Mais, oui, non, mais c'est même curieux. Bah, tant mieux, hein, si vous gardez que ça a été un jour de rêve pour vous, le mariage. Mais enfin, la désillusion, elle a quand même été là aussi.
Alors, pour répondre à votre question en clair, c'est que dans toutes ces grandes difficultés où je suis passé, un jour, là où j'habitais avant, il y avait une pagode bouddhiste. Je peux la citer ou pas ?
Non.
D'accord.
Enfin, je vois pas l'intérêt finalement.
Bon, en région parisienne,
oui.
Et,
oui, je vois en plus.
Dans cette pagode.
C'est dans un parc floral.
Non.
Bon.
Non, c'est pas celle que je vois. Ce que vous voulez dire,
bon, enfin, tant pis, allez, c'est pas grave. Donc.
C'est pas celle-là. Bon, c'est la pagode. Bon. Je peux dire le nom ou pas ?
Mais je vois pas. Étienne, bon. Je crains qu'on se perde un peu dans
D'accord.
des détails et qu'on perde le fil en fait
donc,
de votre motif, de votre appel.
Alors, en clair, c'est que je me suis dirigé vers le bouddhisme.
D'accord.
Et ça m'a permis de me détacher des choses.
Ah, ben d'accord, je comprends mieux. Oui.
Et à tel point qu'un jour, mon maître, qui n'est plus aujourd'hui, paix à son âme, et un jour, il me dit, est-ce que vous savez pourquoi vous perdez beaucoup d'argent ? C'est vrai, avec ce mariage, j'en ai perdu beaucoup.
Ben oui, visiblement.
Et je lui dis non, je ne sais pas. Et puis je me dis en moi-même, pourquoi, qu'est-ce qu'il va me répondre ? Et il me dit, dans votre vie antérieure, vous en deviez beaucoup.
Oh ben oui.
Alors je l'ai regardé avec un grand sourire.
Petit scarabée, oui. Non,
et
enfin,
puis j'ai applaudi parce que...
C'est énorme, quoi.
Comment ?
C'est énorme.
Oui, mais je lui ai répondu simplement, dans ces cas-là, je peux encore en perdre beaucoup, voilà.
Ah ben comme ça, oui, c'est sûr, vous pouvez vous mettre sur la paille, vu comme ça, c'était votre karma, finalement.
Caroline, regardez.
Non, mais moi, si vous le vivez bien, c'est... Mais finalement, si ce soir vous m'appelez, parce que vous dites quand même, vous m'avez dit juste avant, oui, c'est, ça n'a pas été simple, j'ai perdu beaucoup d'argent, bon, plaie d'argent n'est pas mortelle, comme on dit, mais enfin, il y a quand même eu à un moment une grande naïveté aussi. Vous voyez, parce que là, vous semblez tout d'accord avec le bouddhisme, ok, tout relativisé, mais vous n'êtes pas un maître yogi. Enfin, je veux dire, vous me parlez quand même de reconstruction. Dans cette vie-là, ça a dû être quand même douloureux. Enfin.
Oui, non, mais ça a été très douloureux à tel point que quand je quittais la France pour partir, c'est parce que j'avais besoin de voir autre chose. C'était pas pour faire du tourisme, parce que tout à l'heure vous avez employé ce mot tourisme. Moi, le tourisme m'intéressait pas finalement.
Vous êtes dans une quête un peu spirituelle et.
J'ai besoin de prendre la même température quand je me trouve dans un pays. Je me mets à la même hauteur que les gens. J'écoute, parce que moi je parle pas l'anglais non plus, je l'écris pas.
Oui,
donc je passe
pas
à côté
simple.
De plein de choses. Et Bah, j'écoute, je regarde, j'analyse, j'auto-analyse, je réfléchis et je fais mon voyage comme ça.
Alors aujourd'hui, ce voyage-là, c'est plutôt un voyage intérieur. Où en êtes-vous ? Puisque vous m'avez dit, vous avez abordé le côté reconstruction, donc où en êtes-vous ?
Je suis passé par tous les scénarios, le psychiatre, les psychologues, etc. etc.
Vous avez été mal, donc, à un moment donné ?
Ah, plus que mal, bien sûr. Bien sûr, c'est très, très, très difficile parce que moi, j'ai aimé mes beaux-parents mieux que mes parents.
C'est ce que vous me disiez, oui. Vous avez vraiment adopté, c'est peut-être pas anodin d'ailleurs, ce besoin d'ailleurs. Et de...
Ce que je vous disais tout à l'heure, voilà. C'est que quand j'étais enfant, finalement, j'ai pas eu l'amour maternel oui. que j'aurais souhaité avoir auprès de mes parents.
Oui.
Et puis à l'époque, moi j'ai 62 ans aujourd'hui, à l'époque on disait pas je t'aime, je sais pas, bon ça m'a beaucoup manqué, ça m'a beaucoup affecté.
Oui, bah oui, je comprends.
Et
vous avez trouvé ça chez vos beaux-parents ? Vous avez trouvé de l'affection, vous êtes senti aimé.
De par leur culture asiatique, ça fonctionne comme ça.
Enfin ouais, moi je me méfie des généralités, hein. Je me méfie des généralités sur les cultures, c'est pas vrai. Il y a aussi, j'imagine, même dans les cultures asiatiques, des enfants qui se sentent rejetés. Et puis là, ils étaient peut-être très accueillants, vos beaux-parents, mais en même temps, je suis désolée, mais vous pensez qu'eux n'avaient pas vu l'intérêt de leur fille, peut-être ? Vous pensez qu'il y avait une supercherie, elle leur avait fait croire qu'elle était follement amoureuse ou qu'ils voyaient aussi peut-être l'intérêt pour eux que leur fille vienne en France.
Pour vous répondre à la question, pour vous répondre à la question en faisant vite, il y a une entité, il y a comme une pyramide dans l'architecture de la fratrie asiatique. Et vous avez donc papa, maman, etc. Mais surtout les grands frères, Han, Hai. Voilà, les grands frères, les grandes sœurs. Et je pense ce qu'ils ont fait, c'est que comme mon ex-épouse parlait comprenait très bien le français et puis parlait la langue maternelle, ils ont fait une réunion en famille pour approuver le pour et le contre. Voilà, je pense que ça s'est passé comme ça.
Vous l'avez su après coup, donc, évidemment.
Ah, j'ai décrypté un peu tout ça, voilà. Et puis,
mais moi, comment elle vous l'a annoncé, elle, finalement ? C'est ça, qu'est-ce qu'elle, à un moment, quand votre lien s'est un peu délité, qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Puisqu'elle a quand même fini par vous dire, on avait 20 ans d'écart, au fond, comme si elle vous a pas ménagé, là, en disant, t'aurais pu ouvrir les yeux.
Oui,
alors que finalement, c'est un faux argument, parce que même avec 20 ans d'écart, il peut y avoir de véritables histoires d'amour, enfin authentiques.
Oui, mais ça s'est pas passé comme vous le dites. En clair, c'est que elle a eu la nationalité française, elle avait un travail auprès du maire de la commune, voilà.
Oui.
Aujourd'hui, elle est fonctionnaire, etc., etc. Et...
Oui.
En réalité, c'est que j'allais chez ses parents, elle devait venir me rejoindre.
Ses parents étaient venus...
Comment ?
Ses parents étaient en France aussi ?
Je les ai fait venir bien avant le divorce. Voilà.
Ah oui, d'accord.
Je vous raconterai pourquoi.
Non, mais non, parce qu'il faut qu'on avance, en fait.
Ah, donc, en clair, c'est que je retourne dans ce pays. Mon épouse devait venir me rejoindre. Et au lieu de venir me rejoindre, elle m'annonce le divorce par téléphone. Voilà.
D'accord, et une fois que ses parents étaient là, elle était là.
Comment ?
Une fois que ses parents étaient là, finalement, et qu'elle était à la mairie et est devenue fonctionnaire. C'est ça ? Elle était.
Je faisais des remplacements comme.
C'est curieux parce que j'ai l'impression, en vous écoutant, que. Et j'imagine que. Ça, enfin, vous avez dû tomber de l'armoire, que c'est. Vous qui vous êtes investi à 200% dans cette histoire. Mais que vous le racontez, c'est vous qui m'avez commencé en me parlant de mariage blanc et mariage gris, qui avait plusieurs mariages. C'est vous qui avez axé l'échange dès le départ là-dessus. Au fond, quand je vous ai dit, je ne savais pas trop ce que c'était qu'un mariage gris, je suis allée voir en disant qu'il y en a un qui était sincère, amoureux, et l'autre qui avait des intentions frauduleuses. Et vous m'avez dit, oui, ben moi, c'est un mariage gris. Et puis finalement, donc là, vous reconnaissez, vous admettez que finalement il y a eu du prix. Et quand vous me parlez, il y a une telle idéalisation de la culture qui s'apparente presque un peu au déni, au fond, de ce que vous avez vécu. Alors c'est une façon peut-être de vous protéger, de se dire, voilà, j'ai pas fait tout ça pour rien.
Alors je vais faire une parenthèse là-dessus, pour vous expliquer un peu. Autre chose sur ce que vous me dites. En 2015, j'avais fait le parcours du Bouddha, en réalité, par l'Inde, et puis une demi-journée au Népal, en passant par l'intermédiaire d'une pagode. Mmh. Et puis une bouddhiste qui était mariée, qui faisait partie du séminaire, elle me dit, Étienne, est-ce que tu sais pourquoi tu souffres autant ?
Oui, mais...
Et je lui dis, non, bon, je viens de le dire. Mmh. Elle me dit, t'as donné trop d'attachement. C'est vrai, si on donne 99% d'attachement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on souffre pour 99%. Mmh. Et je lui dis, mais toi alors, tu es marié, tu as des enfants, tu donnes combien de pourcents pour ton mari ? Et le pourcentage était vraiment très, très, très petit, j'ose même pas vous le dire.
Bon, c'est terrible d'ailleurs de parler en termes de pourcentage d'une relation.
Oui, mais
moi, vous savez, ce qui m'énerve un peu, je trouve qu'il y a de très belles choses dans le bouddhisme, bon. Mais le côté détachement absolu, pas d'attachement, ça peut friser. Bah, le détachement absolu, c'est la mort finalement. Hein. Et la mort aussi, y compris dans les relations. Parce que... on a besoin d'attachement, mais s'attacher et aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire se dépersonnaliser. C'est ça le problème, c'est que parfois, on aime, mais on aime jusqu'à se dépersonnaliser, jusqu'à se perdre dans l'autre. Alors j'entends bien qu'il y a une quête chez vous profonde, liée à un mal-être, et qui vous ramène à l'enfance, à ce manque d'amour, et où vous rencontrez effectivement des gens de culture bouddhiste qui vous ramènent beaucoup, on est beaucoup dans cette dynamique-là de détachement, mais même des gens... je pense qu'ils ont étudié le bouddhisme, parfois se permettent quand même quelques critiques autour de ça, parce qu'autour du détachement absolu, ça veut dire que on vit seul dans une caverne. C'est ça, on n'a pas de lien. Enfin, je veux dire, le détachement, ne pas souffrir, ça peut aller très loin finalement. Pour ne pas souffrir, se détacher des émotions humaines. Bon, certes, mais enfin, on n'est pas fait de bois. Et à un moment, alors j'entends que vous êtes encore dans cette quête-là et qui vous aide certainement à prendre une distance par rapport à ce que vous avez vécu. Mais à un moment, il faut aussi quand même un peu s'ancrer dans le réel, quoi. Je trouve, il y a quelque chose, attention à l'idéalisation et à... Vous voyez, enfin, c'est... Vous cherchez à donner du sens. Alors évidemment, selon les cultures, chacun va donner un sens différent. Et moi, je reste ouverte à cette vision-là. Mais à un moment, il ne faut pas non plus que ça tombe dans une forme de... je ne sais pas, de... Enfin... Je trouve que y a... Parfois, les généralités ne nous aident pas tellement à avancer, au fond. Vous voyez ? Et à progresser.
Oui, bon, c'est vrai que je remercie Caroline. C'est vrai que vous êtes là pour appuyer aussi le débat. Mais vous le faites bien d'ailleurs. Mais cette personne, je lui ai quand même dit, mais tu n'aimes pas ton mari. Et elle m'a dit, si, je l'aime.
Oui.
Mais demain, si il s'en va, je vais pas souffrir autant que toi. C'était son argument.
Oui, oui, c'est ça, mais je pense à un livre justement sur le yoga de quelqu'un qui a beaucoup écrit, je ne retrouve plus son nom, mais le petit livre était très bien fait et il disait, c'était foutez-vous la paix, oui, le terme a l'air de... C'est-à-dire, justement, il critiquait un peu les dérives ou de devenir presque un peu des purs esprits, débarrassés de toute émotion. Et dans ce livre, je ne l'ai pas sur moi, mais il cite l'exemple de jusqu'où ça peut aller justement l'espèce de détachement par rapport au monde, où un moine comme ça, il se retire dans une retraite, puis il apprend, sa femme vient le voir, ils ont perdu leur enfant et elle est dévastée, elle est en pleurs, et lui il la regarde très froidement parce qu'il dit il ne faut pas s'attacher aux choses terrestres, aux autres, aux liens. Ce détachement-là, il cite cet exemple, qui est une histoire ancienne hein, dans la culture bouddhiste. Et cette histoire m'avait frappée parce que lui dit qu'il peut y avoir toujours des dérives là-dedans, parce que le détachement total fait que finalement on n'est plus humain non plus. Parce qu'être humain, c'est aussi souffrir, c'est aussi souffrir d'un lien d'attachement et de détachement. Alors même si, et là je reviens dans nos cultures occidentales, parfois l'amour fait que on se perd et que on pense qu'aimer, ce n'est pas se dépersonnaliser et c'est pas se perdre dans l'autre. Ah, merci à Marc qui m'amène une petite note. C'est le livre de Fabrice Midal qui s'appelle Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Où justement, lui a été très tôt adepte du yoga, mais parle un peu de toutes les dérives qu'il y a actuellement autour de tout ça, où finalement, il y a du bon, y compris bien sûr dans le bouddhisme, loin de moi, d'abord parce que je ne connais pas, donc je ne me permettrai pas, je ne suis pas suffisamment experte, mais je me méfie des gens qui en font presque, qui en deviennent des maîtres à penser pour les autres. J'ai tendance à me méfier de tous les maîtres à penser. Voyez, parce que on est humain, on fait ce qu'on peut, et il y a des moments, le détachement, c'est pas si facile. Et le détachement absolu, finalement, c'est quand on est mort, on est complètement détaché, voyez. Donc, prenez un peu de recul peut-être par rapport à tout ça, et attention à vous, attention à vous, simplement.
Vous me faites penser à. Lors d'un voyage où j'étais sur à l'île Maurice, c'était après le divorce, je me suis dit tiens, je vais partir un peu là-bas, ça va me faire du bien. Et puis, vous voyez, même dans le divorce, le notaire qui s'est trompé, j'ai encore perdu 40 000 euros, vous voyez, c'est pour vous dire.
Mais vous voyez bien qu'à un moment, il y a un problème. Alors, le moine qui vous dit, parce que finalement, tu paies tes vies antérieures, ok, c'est un peu facile hein, aussi. Alors, certains diront quoi, mais dans leur culture, c'est comme ça. Mais enfin, à un moment, il faut aussi se remettre en question un peu de l'intérieur en étant accompagné, si on ne veut pas passer sa vie à être pris pour un pigeon aussi par d'autres. Voilà, pour être en parlant un peu trivialement.
Oui, voyez, c'est vrai quand vous.
Parce que vous rencontrez des gens qui, eux, ne sont pas détachés. Vous voyez, en l'occurrence. Comment ? Vous rencontrez des gens qui, eux, ne sont pas détachés. Et ce qui est terrible, c'est que vous êtes dans une quête spirituelle. Il y a certainement chez vous un besoin parce qu'il y a une souffrance derrière qui vient de l'enfance. Mais malheureusement, vous pouvez rencontrer des gens qui vont exploiter ça et qui ne sont pas du tout détachés des biens terrestres. C'est là où je vous dis, attention, protégez-vous, parce qu'il y a, du beau et du bon à prendre des autres cultures, et notamment nous, dans nos côtés où on est devenu très matérialiste et où on a perdu un peu cet enchantement du monde et cette vision. Et moi, je m'y intéresse sans pour autant prétendre les connaître, parce que c'est extrêmement complexe, une vie n'y suffirait pas. Mais pour autant, il ne faut pas, voyez, méfiez-vous des maîtres à penser, quels qu'ils soient. Parce que je trouve qu'il y en a prétendument qui ont tendance à expliquer très vite par des où ils prennent un peu de toutes les traditions, de toutes les cultures, mais finalement, je trouve qu'ils bernent sur tous les autres, quoi. Donc, là où je vous dis attention à vous. Voilà. On va devoir se quitter, Étienne, parce que il y a d'autres appels.
Merci quand même d'avoir pris cet appel, Caroline. Mais vous voyez, parce que je voulais vous dire sur le voyage à l'île Maurice, parce que moi, dans mes voyages, je voyais quand même beaucoup de choses, de très belles choses d'ailleurs. Et puis un jour, je dis à cette dame qui me logeait, vous voyez, en payant, et elle me dit. Je lui dis, vous savez, tout ce que je vois, c'est magnifique, mais ça me fait plus rien. C'est beau, mais sans plus, voilà. Et elle me dit, alors ça, c'est un truc qui me restera jusqu'à la fin de mon dernier souffle. Elle me dit, je pense que tu as été blessé au plus profond de ton âme. Et ça, j'ai trouvé ça beau parce que...
Oui, mais c'est ce que je vous dis autrement. Vous voyez, c'est ce que je vous dis autrement. Quand vous me parlez de vos beaux-parents, il y a quelque chose qui vous ramène à cette enfance. Et c'est pas un hasard chez vous. Et ça peut faire du bien, justement, les voyages d'autres cultures. Mais attention de pas vous faire l'objet d'apprentis gourous aussi. Parce qu'ils pullulent en ce moment. Ils pullulent. Et je trouve que le voyage, finalement, il y a quelque chose qui doit aussi vous ramener à vous et à ces manques que vous avez et finalement à apprendre un peu à vous protéger. Parce que vous êtes dans un grand questionnement et le risque, c'est d'en perdre tout esprit critique. Parce que votre questionnement, je le respecte, il est légitime, il est juste même. Mais attention de ne pas vous tromper de voie. Parce qu'on peut en trouver des gens qui, eux, ne vont pas du tout être dans cette dimension-là, mais qui vont vous prendre pour quelqu'un et finalement vous manipuler. Vous savez, la manipulation, elle existe dans plusieurs registres. Et où finalement, on peut vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Oui, vous êtes blessé. Il y a chez vous une quête qui est tout à fait respectable. Mais attention de ne pas vous faire la proie consentante, la victime consentante d'apprenti sorcier. Vraiment, Étienne. Bon courage à vous.
Bon courage merci à vous. Caroline, et bonne soirée, et puis à toute l'équipe, et puis encore
merci
tous les
meilleurs vœux. Merci beaucoup. Et pensez à vous, justement, un peu, avant de penser aux autres. Même si c'est très gentil d'avoir souhaité les vœux à toute l'équipe, et qu'il y a des auditeurs d'ailleurs qui vous souhaitent le meilleur aussi pour cette année.
Aux auditeurs qui vous souhaitent le meilleur, et je leur souhaite également le meilleur également.
Au revoir, Étienne.
Parlons-nous, Caroline Dublanc sur RTL.